La revue de presse. Bonjour Claude Askolovitch.
Bonjour Nicolas.
On parle virilité ce matin.
C'est dans l'hebdomadaire Le 1 qui décortique ce matin le mythe viril. Interrogation logique, en cet automne, on en parle ce matin, où les femmes se libèrent et les pores se balancent. Titre du 1, délivrez-nous du mal, le mal avec un E, prédateur, celui que l'écrivain Albert Cohen dans Belle du Seigneur ne comparait pas à un cochon, mais à un singe dont les valeurs babouines nous envahissaient. Écoutez ça, babouinerie partout, babouinerie, adoration animale de la force, babouine, les foules passionnées de servitude, frémissante foule en orgasme d'amour lorsque paraît le dictateur au manteau carré. Et ensuite, une fois qu'on a lu et digéré Albert Cohen, on se pose la question, pourquoi les petits garçons deviennent-ils parfois ces babouins qui pensent que le monde et les femmes appartiennent à leur violence? Alors le 1 interroge l'histoire, la nature, la testostérone, mais surtout le journal interroge nos banalités quotidiennes jusqu'aux réflexes de cours d'école et aux politiques urbaines les mieux intentionnées. C'est un article très fin qui s'appelle « La fabrique du mal ». On observe ceci. Dans une cour d'école, les jouets sont interdits, mais pas les ballons de football en mousse. Tiens, le terrain de football, il est au milieu de la cour. Il offre l'espace central aux garçons. Et après l'école, les équipements que l'on construit pour occuper les jeunes gens, en réalité, sont des équipements pour petits hommes, ateliers de rock, salles de hip-hop, skateparks. Commentaire de Yves Rébeau, spécialiste de la géographie du genre. On veut canaliser la violence des garçons dans des activités positives, mais ainsi on maintient les garçons entre eux. J'ai dit Yves Rébeau, spécialiste de la géographie du genre, car oui Nicolas, il existe une géographie du genre, ne vous moquez pas, elle est maligne, elle pointe ce que l'on ne voit pas, que l'on dépense plus pour les hommes que pour les femmes par exemple. En 2014, la TVA baissait sur les billets de matchs de football et en même temps, on la relevait de 20% pour les centres équestres fréquentés à 90% par les filles. Ainsi se réconforte la virilité modélisée et ça fait aussi souffrir les hommes. L'idéal de virilité est anxiogène, nous dit dans le 1 la philosophe Olivia Gazalet. Les garçons sont toujours élevés dans le goût de la violence, mais sans l'exutoire licite de la guerre et du duel. Comment faisons-nous, pauvre mâle ? Sera-t-il nostalgique, le pauvre mâle, en lisant, c'est dans le New York Times, qu'un bordel historique, au Belle Poule, rue Blondel à Paris, ses peintures restaurées, sera bientôt loué par l'héritière des lieux pour des soirées tout à fait décentes, ou se consolera-t-il, le pauvre mâle, en lisant, c'est dans le Parisien, que désormais le parangon de la séduction, c'est le geek, le fondu d'informatique, étude de Glidden, site de rencontres extra-conjugales sur 6000 clientes, eh bien la moitié irait plus volontiers vers un diplômé en informatique que vers un sportif. Est-ce le progrès? Désormais, le babouin a une souris.
Et c'est un maître de l'économie numérique, Claude, que Vanity Fair met à l'honneur.
Xavier Niel, patron d'Iliad, copropriétaire du Monde, investisseur munificent de la nouvelle économie, en tête du classement des 50 Français les plus influents, que publie aujourd'hui donc Vanity Fair. Mais c'est moins le portrait de cet homme qui est venu des marges pour arriver désormais en si haute bourgeoisie qui nous attire que quelques bonnes surprises trouvées par les journalistes. Tiens par exemple, c'est une jeune Française de 7, Fiji Simo, qui s'impose chez Facebook. Tiens, autre exemple, une cinéaste Denise Gamzé-Erguven est cooptée à Hollywood. Voilà, c'est très bien tout ça. Sauf qu'ensuite, on tique quand sur le podium, à la troisième place du classement de Vanity Fair, apparaît derrière Niel et Zidane, Brigitte Macron. Ah bon, Brigitte? Décrite ainsi par Karl Lagerfeld, Lige comme les plus belles jambes de Paris. Décrite ainsi par le New York Times comme l'archétype de la whip. Whip, ça veut dire fou en anglais. Ça veut dire aussi women, hot, intelligent and in their prime. Femmes sexy, intelligentes et dans la fleur de l'âge. C'est sans doute vrai, mais enfin, Brigitte Macron fut une professeure de français enthousiasmante. On se demande si elle mérite cette lumière étrange qui naît de l'heureuse fortune de son époux, éternel féminin.
Vous voulez dire un mot, Laurence Rossignol, de cette étrange catégorie que je découvre, la whip?
Moi aussi je la découvre, on apprend toujours beaucoup de choses avec Claude Askolovitch. Je ne connaissais pas, écoutez, on est toutes des whips, hein, je crois.
Claude?
Cet éternel féminin, Nicolas, on la raconte aussi dans L'Équipe, hein, c'est surprenant. L'Équipe parle de l'amitié de trois jeunes femmes, Julie Lang, Stéphanie Tussito et Christelle Bertrand. Sont-ce des sportives? Non, point du tout. Ce sont les compagnes de tennismen français et belges qui vont s'affronter pour la finale de la Coupe Davis. Elles ne sont pas des sportives, nous dit le journal. Mais enfin, l'article est titré « Drôle de dame » et vraiment « Drôle de sujet » et « Drôle d'éternité encore ». Vous pouvez en contrepoint relire dans L'Équipe magazine, ça rattrape le journal, ou ce matin dans Libération, des portraits de Billie Jean King, qui fut jadis une grande joueuse de tennis qui battit un vieux champion macho nommé Bobby Riggs dans un match symbolique. On en fait un film actuellement. Laissez le film, lisez les articles. Billie Jean King fit l'histoire et influença alors un jeune garçon nommé Barack Obama qui jamais, jamais ne fut un macho.
Une guerre du siècle, dernier pour finir, Claude trouve son épilogue judiciaire.
Et elle revient à la mémoire dans Libération où l'on voit des photos d'un homme qui fut viril justement et armé, Ratko Mladic, le chef militaire des Serbes de Bosnie il y a 21 ans et qui va connaître son sort judiciaire au tribunal pénal international. Aujourd'hui, on se guérit de nos futilités, de nos sourires en relisant l'enfer que fut Srebrenica, en découvrant aussi un homme, Ramiz Nukić. On l'appelle en Bosnie le ramasseur d'ossements. Il exhume les restes des victimes du génocide pour leur rendre une mémoire. C'est dans Libération. Elle s'oublie vite les guerres, Nicolas. Et pour compléter, vous lirez dans Le Monde un reportage qui est à la fois splendide et insoutenable sur Raqqa, en Syrie, libérée de l'État islamique et qui remue ses ruines quand les caméras sont parties ailleurs. Je cite « Les grands axes ont été déblayés, les lames des bulldozers ont repoussé un hachis de ville, ramassé en talus, parpaings, carcasses brûlées de voitures familiales, tiges d'acier de longueurs diverses, rideaux de fer froissés, et puis un cadavre recuit, puant. » Enveloppé dans une couverture noire de suie qui épouse les reliefs anguleux du squelette humain. Dans les déblais, un lapin en peluche au pelage souillé attire l'œil et encore toujours cette haleine cadavéreuse, le souffle silencieux constant d'une ville à terre. On oublie vite les guerres, c'est dans Le Monde ce que font les babouins armés que l'on appelle des hommes.